On sait maintenant, aujourd'hui 31 mai, que l'épicentre de la pandémie, là où il y a le plus de transmissions et de décès aussi évidemment associés, c'est l'Amérique du Sud, surtout à cause du Brésil, qui est de loin le pays le plus touché. Au deuxième rang, pourtant, un pays qui a été exemplaire dans sa façon de lutter contre la pandémie dès son apparition, c'est le Pérou. Le Pérou qui est malgré tout devenu le deuxième pays le plus touché par l'épidémie du COVID-19 en Amérique du Sud. Le Pérou, c'est plus de 155 000 cas et on parle maintenant de plus de 4 000 morts. Dans la capitale, Lima, nous rejoignons Christopher Yeomans. Christopher Yeomans, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, alors il faut s'habituer, nous aurons un délai dans la transmission téléphonique. Je vous pose la question, Christopher Yeomans. Le Pérou a eu une approche très discipliné, beaucoup plus que le Brésil. Il y avait déjà des mesures d'isolement social dès le 16 mars. Est-ce que c'est pas un peu décourageant pour les Péruviens que de voir l'évolution de la situation en ce moment?
Oui, effectivement, moi, depuis le début, je vois un peu ce qui se passe au Canada. Et je compare un peu ici, c'est arrivé plus tard. Mais dans l'espace de 2 mois, vraiment, là, maintenant, jusqu'à 150 000 cas, c'est assez énervant. Veux pas, tu sais, les restrictions qu'on vit ici à Lima sont assez strictes. Et c'est à cause vraiment un peu de l'économie informelle et les épicentres de transmission où c'est très difficile et surtout dans les banlieues. Il est bidonville où on voit une transmission assez importante et tout le trafic des gens qui travaillent un peu dans les centres de supermarchés. On voit ça, donc c'est un peu, on sait que tout le monde, il y a une bonne solidarité ici, mais on sait aussi que la décroissance, c'est très graduel et on n'est pas rendu à un moment où on peut vraiment même laisser aller, commencer d'ouvrir l'économie et les libertés personnelles.
Alors ça, évidemment, c'est très décourageant parce que vous êtes en mesure d'isolement social depuis le 16 mars. Donc, on parle de 2 mois et demi et d'après ce que je peux voir, c'est un mot très à la mode partout dans le monde, vous êtes loin encore du déconfinement.
Oui. Et c'est très difficile, on voyait le premier ministre aujourd'hui, hier, qui disait c'est très difficile de savoir quand ça va terminer la quarantaine assez stricte. Donc, on pense qu'au moins peut-être 5-6 mois de plus d'un certain niveau de quarantaine ici à Lima à cause de la transmission, à cause un peu de la façon sociale de se mobiliser, de gagner une vie ici à Lima. Donc, ça va être assez difficile, je pense, pour un bout de plus.
Est-ce que les citoyens ont droit à une aide financière de la part du gouvernement?
Oui, justement, pour les secteurs les moins favorables, les vulnérables, il y a presque entre 250 $ par mois pour des familles, par personne, pour des familles qui sont en train d'être distribuées. C'est un peu difficile à accéder parce que beaucoup de monde n'ont même pas des comptes bancaires, donc il faut qu'ils fassent file dans les banques et les différents centres pour aller chercher leur bonification, leur quota mensuel, etc., qui était augmenté aussi une fois parce que c'est pas vraiment assez, là, parce que, ouais. La vie est dure, et surtout dans les bidonvilles et les périphéries de la ville de Lima, surtout, et dans d'autres zones du pays.
Est-ce que le Pérou a adopté le port du masque?
Effectivement, presque dès le début, tout le monde doit porter le masque partout, même dans les édifices, dans les buildings, les gens vont mettre les masques où on habite, les blocs appartements. Et surtout quand on circule dans la rue, même si on respecte les 2 mètres à peu près de distance entre les personnes, les gens mettent les masques. ou si on le voit effectivement dans n'importe quel centre d'achat, dans les banques, etc., où on a le droit de rentrer, tout le monde doit porter le masque, sinon on ne peut pas rentrer.
Est-ce que le fait d'avoir quand même une longue frontière à l'est du pays avec le Brésil, ça rend la situation plus difficile pour le Pérou?
Ben, l'Amazonie, c'est un des coins qui est le plus affecté parce qu'en partie, le taux de transmission était super élevé dès le début et il y avait une crise dans les secteurs de santé, des crises d'émulie, des soins de protection, de l'oxygène aussi pour les gens qui étaient vraiment affectés. Parce que c'est l'Amazonie, c'est vraiment le jungle, il n'y a pas tellement d'endroits de transfert, de transit. Il y a maintenant l'autoroute transcontinentale qui va traverser, mais vraiment c'est définitivement un flux. Mais je dirais que c'est aussi à cause de la majorité de tous les vols, par exemple, quand il y avait des vols, ça rentre toujours par la capitale Lima et on part. Donc, je pense que la transmission était plutôt interne et je ne sais pas vraiment, l'ouverture de la frontière avec le Brésil, je ne sais pas, j'imagine que c'est fermé, ça fait un bout de temps que c'est fermé, donc ça ne devrait pas être une mode de transmission tellement importante.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Christopher Yeomans, depuis Lima, la capitale du Pérou, et bonne chance.